France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Musique noire pour nuit blanche. C'était le titre de la série de 5 émissions que proposait Stéphane Martinez en 2003 pour les chemins de la musique. Gospel, blues, soul, rhythm and blues, à l'exception du jazz, on y retraçait l'histoire des grands courants de cette musique noire américaine du XXe siècle qui aura si profondément marqué toute la musique populaire. Dans le deuxième volet de la série, il était question des labels de Memphis et Détroit, Stax et Motown, qui, à l'aube des années 60, firent danser le monde entier avec, entre beaucoup d'autres, Johnny Taylor, Sam & Dave, Otis Redding ou Isaac Hayes d'une part, Jackson 5, Diana Ross, Stevie Wonder, Les Temptations et Marvin Gaye d'autre part.
Musique noire pour nuit blanche, Stax et Motown, les deux écuries de la soul music, avec Sébastien Danchin, auteur du dictionnaire du rhythm and blues aux éditions Fayard et Gilles Pétard. Qu'elle soit originaire de Chicago, Memphis ou Detroit, il existe tellement de ramifications dans la soul music qu'il n'est pas toujours facile de se retrouver dans toutes ces écoles et tous ces courants. Musique noire pour nuit blanche ne pouvait pas faire l'impasse de s'arrêter sur les deux labels, Stax et Motown, qui ont signé au cours des années 60 et 70 quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la musique. À Memphis, Stax fut une expérience unique d'association multiraciale dans une région qui pratiquait encore la ségrégation raciale, alors que le label Motown, entièrement dirigé par des Noirs, produisait une soul plus orchestrée, plus mélodieuse, dont les plans pouvaient se délecter sans redouter quelques paroles trop subversives.
I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. You, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired, and your love is growing. Affair grow. I've been loving you too long to stop now. Oh, I've been loving you. I don't want to stop now. Oh, oh, don't make me stop now. Oh, yeah, I don't need it. Please don't make me stop now.
le temps, on peut voir qu'il y a le rhythm and blues, et puis après, il y a déjà les débuts de la soul. Ensuite, il y a une soul qui devient plus militante avec le funk qui arrive. Ensuite, il y a le disco. Ensuite, il y a un retour en force de la balade qui est la concurrence directe du hip-hop. Et puis ensuite, il y a un mariage entre les deux qui donne la new soul actuelle.
Sébastien Danchin.
Bon, géographiquement, on remarque qu'il y a aussi des tendances. Ce qui est très ambigu dans ces tendances géographiques, c'est qu'on pourrait penser, par exemple, que l'école de Chicago est stylistiquement extrêmement différente de celle de Memphis ou de Détroit ou de Philadelphie ou de la côte ouest. En réalité, il y a des différences, mais qui tiennent beaucoup à la personnalité des patrons de maisons de disques qui étaient implantés dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, à Memphis ou à Chicago, il y a quelqu'un de très important qui est un grand producteur qui a joué énormément de rôles, qui est Carl Davis. Il y a un autre producteur et artiste important qui était Curtis Mayfield. Donc rien qu'avec ces deux personnalités-là, on donne à l'école de Chicago un côté relativement urbain, relativement sophistiqué dans les arrangements, des paroles qui sont relativement élaborées dans l'écriture, etc. Mais parallèlement, on peut avoir quelqu'un comme Syl Johnson, quelqu'un comme Otis Clay, qui sont des purs produits, je dirais, du Mississippi et de l'école beaucoup plus brute du blues du Delta, qui sont plus proches de l'église, de la petite église sudiste dans laquelle on chante en criant et les femmes tombent en pamoison le dimanche matin. Bon, c'est plus proche de ça.
Qu'est-ce qui sépare le son de Motown avec celui de Stax?
Ce qui sépare le son de Motown de celui de Stax, c'est avant tout, je crois, une conception même de ce qu'on veut faire du disque. Le son Motown tel que le vivait Berry Gordy, puisque c'est lui le... cet ancien ouvrier des usines Ford qui à un moment a vendu des disques de jazz et qui a voulu faire du jazz et puis comme il n'est pas arrivé a décidé de faire de la chanson. Ce type-là, son but, c'était de faire entrer la chanson populaire noire dans l'univers commun à toute l'Amérique, dans l'Amérique mainstream.
Dans le spectre le plus large.
Exactement. Il faut voir la chose suivante, c'est que l'Amérique noire, c'est 10% de la population. Pendant extrêmement longtemps, les chanteurs de l'Amérique noire, personne ne les connaissait en dehors de l'Amérique noire. Le but de Berry Gordy, c'est au contraire de faire une musique qui soit suffisamment grand public pour qu'elle garde sa richesse rythmique et ses spécificités d'une certaine manière, mais qu'elle se fonde dans la variété générale. Et c'est à quoi il est arrivé. C'est comme ça qu'il a réussi, avec des gens comme les Supremes et Diana Ross, etc., à créer une musique qui était extrêmement grand public.
Ou Michael Jackson.
Michael Jackson par la suite. Alors que Stax, le but n'est pas là. Stax est une maison qui revendique beaucoup plus ses racines noires. Pas tant au début, mais très rapidement.
Autre particularité, le son Stax emprunte beaucoup au blues, au gospel, et ce qui est sans doute plus original, c'est à la country âpre et sauvage.
C'est pas si étonnant que ça. Là, puisque vous me faites entrer dans le vif du sujet, effectivement, autant la soul de Motown, c'est une soul qui cherche à gommer sa négritude d'une certaine manière, autant la soul de Stax, c'est simplement des gens qui, par le plus grand des hasards, se sont retrouvés ensemble à une époque et qui ont mis sur la table, en fait, leur culture respective. Et c'est quoi la culture du Sud? C'est à Memphis en particulier, qui est la capitale du coton et donc de ce delta où pousse le plus beau coton d'Amérique. Bon, c'est quoi sa particularité? C'est d'être le lieu de naissance, dit-on. J'y étais pas pour le vérifier. Du blues. C'est d'être le lieu de naissance aussi de la musique country. et c'est d'être l'une des grandes patries du chant religieux noir, donc du gospel. Donc c'est logique que ces trois entités se retrouvent ensemble. Et en réalité, c'est pas si nouveau que ça quand ça arrive au début des années 60, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait ce mélange et cet amalgame, c'est Elvis Presley, presque 10 ans avant.
Rappelez-nous un petit peu les conditions de la création de ce label, en quelle année, qui en sont les fondateurs et quelle est un petit peu son histoire.
Alors l'histoire de Stax, c'est un label qui est extrêmement important dans l'histoire de la soul. C'est Otis Redding, c'est Sam and Dave, c'est Wilson Pickett,
Eddie Floyd,
c'est par la suite
Johnny Taylor,
Singers, Johnny Taylor, Little Milton, Albert King. Bon, comment est-ce que naît ce label? Ben, c'est un petit employé de banque qui s'appelle Jim Stewart qui décide un jour de créer un label de musique country, puisque lui joue de la country, il est violoniste. Et puis, en fait, ça marche pas très bien. Donc, il décide quand même de persévérer, mais on lui propose un groupe black. Il décide de l'enregistrer et il trouve un écho localement pour ça. Donc, il poursuit. Et puis là, il rencontre Rufus Thomas, qui est un animateur radio de la communauté noire très connu, qui a une jeune fille qui a 16 ans et qui s'appelle Carla, qui chante bien. Il décide d'enregistrer son disque. Et puis, ça fait un tube qui attire l'attention d'une marque de disques importante de New York, qui est Atlantic. Atlantic, c'était la marque, entre autres, de Ray Charles, pour ne donner que cet exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, Stax est un peu mis... Enfin, Stax, qui ne s'appelle pas encore Stax à l'époque, est déjà un petit peu existe sur la carte. Et puis, peu après, ils enregistrent un autre disque par un groupe de jeunes fans de musique noire, mais qui sont des blancs, et qui, eux, font un énorme tube national, c'est un instrumental, qui s'appelle Last Night. Le groupe s'appelle les Marquises. Et donc, ce groupe obtient un succès phénoménal.
Oh, last night.
On peut dire qu'il y a en gros deux grandes périodes importantes. Il y a la première période où on a un vieux cinéma au cœur du quartier nord de Memphis qui sert de lieu pour les bureaux, pour les studios, etc. Et puis il y a plein de musiciens du CRU qui en ont fait leur quartier général et qui vont enregistrer quantité de... Ils passent des heures à mettre au point des chansons, enregistrer, etc. Comme cette école a du succès, on fait venir d'autres artistes. Wilson Pickett, par exemple, qui a été signé par Atlantic, on l'envoie chez Stax à Memphis, puisqu'ils ont un peu les doigts en or. Bon. Donc, il y a toute une équipe qui se met en place autour de personnalités, en particulier celle de Steve Cropper, qui est un guitariste et qui est le guitariste du groupe Booker T and the MGs. Mais il y a également Booker T. Jones, qui est l'organiste, il y a également Isaac Hayes, qui est le pianiste et organiste maison, enfin bon, un certain nombre de gens qui deviendront célèbres par la suite. Et puis très vite, il est tellement évident que c'est un label de musique noire et que ça touche tellement profondément la communauté noire qu'on engage des dirigeants noirs, en particulier un ancien disc jockey qui s'appelle Al Bell, et qui lui va faire prendre son essor, et il va faire de Stax le grand label qui va être la vitrine de cette Amérique en pleine ébullition qu'est l'Amérique noire de la fin des années 60, début des années 70.
D'un point de vue musicologique, est-ce que la basse et la batterie vont occuper une place prépondérante dans la manière de construire un morceau, ou bien il y a d'autres ingrédients plus importants?
Je crois que de toute façon, quand on parle de musique populaire noire, pas de musique noire, mais de musique populaire, j'insiste là-dessus, le rôle de la voix est primordial. Je veux dire, la voix, c'est l'instrument maître depuis le début. C'est l'instrument des cris de travail dans les champs de tabac ou de coton. Après, c'est le premier instrument du blues. C'est celui qu'on prolonge par la guitare ou par l'harmonica. Je veux dire, avant tout, la musique populaire noire, c'est un cri.
Why you lie? She knows.
Dans l'écurie Stax, si vous aviez un interprète, lequel choisiriez-vous?
C'est Johnny Taylor, parce que c'est quelqu'un qui, depuis, d'abord, il a une très longue carrière chez Stax, puisqu'il a commencé au milieu des années 60, je crois en 66, et il termine avec la faillite de la compagnie en 75. Bon, il a poursuivi sa route après, mais pendant pratiquement 10 ans, il aura fait toute sa carrière là-bas et on voit très bien comment sa musique évolue. Elle évolue de la même manière que le label évolue et je crois que c'est peut-être lui le représentant le plus symbolique.
C'est un label qui s'est associé au mouvement politique des années 60, plus ou moins ?
Stax a été extrêmement impliqué dans la vie politique de la communauté noire, en particulier à partir de la fin des années 60, début des années 70. Ça a été une des raisons de son succès aussi et de ses difficultés financières, parce que je crois que c'est une implication politique qu'on ne lui a pas pardonnée. Et au moment où Stax est devenu très gros, il y a un certain nombre de gens dans l'industrie du disque américaine qui se sont arrangés pour lui faire un croche-pied ou plusieurs croche-pieds. C'est un label qui dérangeait parce qu'il disait très fort ce qu'il n'était pas toujours bon de dire.
Pétard, vous avez été représentant du label Motown dans les années 70. On peut dire que la transition est éclatante avec les productions du label Stax.
Oui, c'est assez peu comparable parce que je dirais que chez Stax, c'était des artisans qui faisaient une chose très très bien, qui faisaient une chose formidablement bien, qui était une musique émotionnelle, qui était une musique mais relativement simple. Alors qu'à Détroit, chez Motown, c'était vraiment une industrie. C'était strictement le contraire. C'était très très différent. Je veux dire, tout était pensé. Le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, des Supremes, c'est quelque chose. C'est une composition absolument extraordinaire. Ce sont des arrangements musicaux. Il y avait des arrangeurs à cette époque qui étaient hors pair. Il y avait des interprètes. Je veux dire, Diana Ross, c'est une des grandes grandes interprètes de la soul. Et puis il y avait une vision d'un homme derrière tout ça. Il y avait le fondateur Berry Gordy, qui est quelqu'un qui, dans les années 50, a eu cette vision de vouloir fonder un label avec des Noirs et qui serait une musique qui ferait le crossover, c'est-à-dire qui serait achetée par absolument le monde entier. Et il a réussi son pari. Mais il y a mis le paquet, c'est-à-dire il a tout imaginé dans les moindres détails. Il avait des chorégraphes à l'intérieur de la maison, il avait des gens pour les costumes. C'était absolument, on peut pas imaginer aujourd'hui ce que c'était. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Détroit, à cette époque, était un vivier de talent comme il y a rarement eu dans le monde. L'alchimie de ces producteurs et de ces musiciens ont donné un sound, dont le disque des Supremes qu'on vient d'écouter est un typique exemple. Si vous voulez, il y a le baryton, il y a ce son de guitare, enfin c'était une époque totalement inouïe qu'on n'a jamais pu refaire après.
C'était beaucoup plus sophistiqué que le son un peu brut, un peu sauvage du son de Memphis.
Hein. Oui, parce que la musique de Détroit était une musique qui était très 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 arrangée. Alors que le son de Memphis, les arrangements étaient de base, c'était toujours les mêmes arrangements dans les disques. Si vous voulez, ce qui était formidable dans les disques de Memphis, c'était la force des interprètes, c'était le côté très proche du blues. Alors que Détroit, on voulait faire quelque chose de très très différent. On voulait faire une musique beaucoup plus polissée pour plaire à un public très très large.
Gilles Pétard, parlez-nous des Funk Brothers.
Alors, les Funk Brothers étaient l'ensemble des musiciens qui jouaient, qui accompagnaient les artistes dans les grands enregistrements Motown. Et c'était des artistes qui avaient un talent absolument extraordinaire, mais qui n'étaient pas du tout crédités à l'époque sur les pochettes de disques. Et justice leur a été récemment rendue parce que un film a été tourné sur eux avec des interviews. Et ce film est sorti aux États-Unis l'an dernier, alors que c'est un film à tout petit budget, a fait un véritable tabac aux États-Unis. Et le film est paru chez nous il y a quelques semaines.
Alors pourquoi avez-vous choisi un morceau de Junior Walker, I Am a Red Donner?
Pour montrer les différents côtés de ce que pouvait être le son Motown. On a écouté quelque chose d'extrêmement sophistiqué qui était Diana Ross et les Supremes. Et là, on va écouter un saxophoniste, chanteur. Mais ce qui est étonnant dans le morceau qu'on va écouter, c'est que c'est un mélange de sophistication dans l'accompagnement et qui est très très Motown avec un artiste qui est très très différent des Supremes.
I'm a road runner, baby.
Le succès du label est considérable, Gilles Pétard, mais jusqu'à quand la firme parvient-elle à maintenir son rang?
Alors, la firme maintient son rang avec le sound tel qu'on l'a entendu là jusqu'à la fin des années 60. Parce que le label, au début des années 70, a déménagé à Los Angeles. Et à ce moment-là,
Après les émeutes de Détroit, hein, après les émeutes en 67. De
Détroit, et à ce moment-là, ça devient l'image de marque est totalement différente. Ce qu'il faut dire, c'est que ce label, pendant à peu près 20 ans, il ne se passait pas un mois sans qu'ils aient un numéro 1 aux États-Unis. Je veux dire, si c'était pas les Temptations, c'était Diana Ross, c'était Marvin Gaye, c'était
les
Four Tops, Mary Wells. Enfin, c'était absolument incroyable. Et on se rendait pas très très bien compte en Europe de tout ça. On s'en est aperçu bien après. Et puis c'est quand même ce label qui a signé en tout premier Michael Jackson avec les Jackson 5 à la fin des années 60. Et puis après, la musique a changé. Donc on est passé de l'époque des 45 tours à l'époque des albums concept. Et Motown a été un des premiers labels à sortir de vrais albums concept, comme par exemple les albums de Stevie Wonder, comme Songs in the Key of Life, par exemple, ou évidemment le Marvin Gaye, What's Going On, qui a marqué une époque.
Pourquoi ?
Marqué une époque parce que c'était complètement nouveau. Je veux dire, c'était une approche totalement différente de la musique. C'était très sensuel. Il disait des choses très vraies. Jamais on disait des choses aussi vraies auparavant. Ça a beaucoup beaucoup marqué.
Il traitait de la guerre du Vietnam, de l'écologie.
L'écologie et puis la façon de vivre des Afro-Américains. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dedans.
La confusion de l'homme noir.
Absolument.
Mmh. On l'écoute. What's going on, Marvin Gaye? Chemin de la musique, le succès story du label Stax et du label Motown, avec Sébastien Danchin, auteur d'un dictionnaire de l'histoire du rhythm and blues, et Gilles Pétard, ancien responsable du label de Détroit en France dans les années 70.
Yeah.
Musique noire pour Nuit Blanche, Stax et Motown par Stéphane Martinez pour Les Chemins de la Musique a été diffusée pour la première fois le 30 décembre 2003. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.